Radio Prague, les informations.
Milan Baumer, personnage controversé de la lutte contre le régime communiste, est mort. Les Tchèques et les Slovaques veulent approfondir leur coopération militaire. La 36e école d'été et de cinéma a été ouverte au Uherské Hradiště. Milan Paumer, un des membres du groupe des frères Machine, est mort jeudi à Prague à l'âge de 79 ans, des suites d'une longue maladie. Milan Paumer et les deux frères Machine sont des héros anticommunistes controversés. Ils ont mené une lutte armée contre le régime à travers notamment plusieurs opérations de sabotage. En 1953, Milan Paumer et les frères Machine s'étaient rendus célèbres en parvenant à s'échapper de Tchécoslovaquie et en ralliant l'Allemagne de l'Ouest. Lors de leur cavale clandestine longue de 4 semaines, ils ont toutefois tué 6 hommes, dont certains innocents. La République tchèque a reculé de 13 places au classement des pays bénéficiaires des investissements directs étrangers. 44e en 2008, la République tchèque figurant en 57e position en 2009. Le montant des investissements réalisés par des entreprises étrangères a baissé de 42% sur l'ensemble de l'année dernière, soit 52 milliards de couronnes. Conformément à l'accord sur le ciel ouvert, une mission russe comptant 21 experts se rendra ce lundi en République tchèque pour effectuer sur son territoire une observation des établissements militaires locaux. L'avion d'observation Antonov AN-30B, en charge de cette mission, quittera le pays vendredi prochain. Selon l'accord concerné, la République tchèque est appelée à accueillir jusqu'à 4 vols d'observation par an au-dessus de son territoire. De notre côté, elle peut effectuer le nombre identique d'opérations dans un des pays membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. La 36e édition du festival de cinéma appelé l'École d'été de Uherské Hradiště en Moravie du Sud a débuté ce vendredi après-midi. Comme chaque année, le festival, un des plus importants du genre en République tchèque, propose un programme riche et exhaustif. Pour cette 36e édition, c'est le cinéma islandais qui y est mis à l'honneur. L'école d'été présentera également une section consacrée au film burlesque français, mais aussi et surtout une rétrospective du grand maître du comique poétique Jacques Tati. Les ministres tchèques et slovaques de la Défense, Alexander Vondra et Lubomír Gargo, se sont rencontrés à Prague. Les deux pays envisagent d'approfondir leur coopération militaire, les hélicoptères de transport ou la conception de la défense de l'espace aérien sont deux des principaux domaines dans lesquels une coopération entre Prague et Bratislava est envisagée. Météo pour terminer, le ciel en République tchèque est désormais couvert. Les températures diurnes se sont situées ce vendredi entre 20 et 24 degrés. Il va faire plus froid encore pendant le week-end. C'était le journal présenté par Alena Gebertová.
Faits et événements en République tchèque.
Alexis Rosenzweig.
Vous êtes toujours sur Radio Prague. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette émission, dernière émission de la semaine, avec notamment au programme du sport, de la musique et du cinéma. Cinéma avec l'école d'été du film qui a commencé ce vendredi à Uherské Hradiště en Moravie. Musique avec les festivités de la musique ancienne qui se déroulent en ce moment à Prague. Et puis du sport avec du cyclisme et le tchèque Roman Kreuziger qui a réussi à revenir parmi les 10 premiers du classement général du Tour de France après le Tourmalet et la dernière étape de montagne. Mais on commence tout de suite avec une mauvaise nouvelle pour plusieurs dizaines de touristes tchèques. L'agence de voyage Svobodna Cesta, basée dans la ville de Česká Lípa, c'est dans le nord du pays, a fait faillite cette semaine. Une nouvelle faillite qui gâche les vacances de près d'une 50aine de touristes se trouvant actuellement en Croatie et de centaines d'autres qui avaient déjà réservé leurs vacances avec cette agence de voyage spécialisée dans les destinations croates. Les compagnies d'assurance sont déjà en train d'essayer de régler la situation. On écoute tout de suite Tomio Okamura. Il est le porte-parole de l'association tchèque des agences de voyage.
La loi tchèque protège les touristes. Dans le cas où ils sont à l'étranger, il leur faut tout de suite prendre contact avec la compagnie d'assurance qui assurait le contrat avec cette agence de voyage. Légalement, la compagnie d'assurance doit prendre les touristes en charge et payer leur rapatriement vers la République tchèque. Dans le cas où le séjour a été écourté, le client a également droit à un remboursement. Et pour ceux qui avaient acheté un séjour, mais ne peuvent plus partir, ils doivent également contacter la compagnie d'assurance qui a 6 mois pour leur rendre leur argent.
Cette agence Svobodna Cesta existe depuis 15 ans, mais en raison de la crise, n'avait réussi à vendre que moins de la moitié des séjours dont elle disposait. Du coup, elle s'est vue refuser un nouvel emprunt bancaire. Les licenciements dans le secteur du verre et de l'industrie automobile ont été relativement importants dans la région de Česká Lípa et selon le propriétaire de l'agence, Jaroslav Svoboda, cela a eu des répercussions sur le tourisme et sur ses affaires. Heureusement pour ses clients, l'assurance devrait fonctionner dans tous les cas. Tomio Okamura à nouveau.
Toute agence de voyage doit être assurée. Cette agence en question est assurée par la compagnie d'assurance Česká podnikatelská pojišťovna qui nous a confirmé qu'elle était déjà en train de régler la situation. Donc, c'est à elle que doivent s'adresser les clients pour faire valoir leurs droits.
Ce n'est pas le premier cas de faillite d'une agence de voyage tchèque ces derniers mois. L'été dernier, c'est une des plus importantes agences du pays, Tomitour, qui a coulé en gâchant les vacances de milliers de clients. Et on passe maintenant au cinéma avec la 36e école d'été du film d'Uherské Hradiště en Moravie qui a commencé ce vendredi 23 juillet. Au programme cette année pour ce rendez-vous de cinéphile baroudeur, une rétrospective Fassbinder et sur le film noir. Un hommage au cinéma burlesque français, représenté notamment par Jacques Tati. Un panorama aussi de la création cinématographique latino-américaine. Et comme chaque année, c'est un pays qui est mis à l'honneur, comme le rappelle David Czeniek, un des organisateurs qui est au micro d'Anna Kubiszta.
En fait, le pays invité, c'est Islande. On va présenter à peu près le panorama de cinéma islandais de tous les temps. Il faut voir que c'est pas un cinéma qui a une longue histoire, c'est un cinéma assez jeune. Alors on va présenter les sagas, en fait les films qui racontent les sagas de Vikings. On va présenter les nouveaux films jusqu'à les films de Fredriksson qui va venir au festival. Et on a choisi ce pays parce que c'est un pays dont le cinéma est peu connu en République tchèque et on
pourrait même dire en Europe aussi. Hein.
En Europe, oui, je pense. On veut le faire découvrir au public de notre festival.
Alors, parmi aussi les focus de cette année, un réalisateur qui est très cher à mon cœur d'ailleurs, Jacques Tati. Pourquoi avez-vous choisi particulièrement de faire une rétrospective Jacques Tati et quels sont les films connus et inédits que vous allez présenter ?
L'idée, c'était de présenter un peu l'évolution du cinéma burlesque en France. C'est-à-dire qu'on va présenter les films de Max Linder. Il y a une petite sélection parce qu'il a fait beaucoup de films et quand même, je pense, une sélection représentative. Après, on a choisi Jacques Tati, bien évidemment, et aussi Pierre Etex. Mais les films, c'est-à-dire la programmation de Pierre Etex n'est pas encore confirmée.
D'autant que c'était très compliqué avec les films de Pierre Etex qui vont seulement ressortir en France, en fait,
à l'heure actuelle. C'est ça. En fait, les films ont été déjà restaurés, les copies sont prêtes, les droits sont débloqués, il a gagné son procès, mais on est en fait en train de négocier avec son distributeur et avec lui, pour ça, Jacques Tati, parce qu'il a travaillé avec Jacques Tati, Max Linder, parce qu'on dit que Pierre Etex, c'est un élève ou quelqu'un qui succède Max Linder. Alors c'est pour ça que on a décidé de faire aussi la rétrospective de Jacques Tati. La deuxième raison, c'est aussi que les films de Jacques Tati existent en copie neuve, restaurés en version complète. Alors on va présenter tous les films auxquels Jacques Tati a participé en tant que réalisateur ou acteur. C'est-à-dire que on présente les films avec son personnage de Monsieur Hulot, on présente les films comme Jour de fête, on présente les courts-métrages, les films inédits, citons Forza Bastia Oulil, en fait, c'est un documentaire qui est sur le championnat de l'Europe en football en 78 quand la Corse a été sélectionnée. Alors Jacques Tati a tourné un documentaire là-bas en Corse, mais il n'a jamais pu terminer le montage. C'est sa fille qui a fait le montage. Pour ça, le film n'est jamais sorti en salle. On va présenter L'illusionniste de Sylvain Chaumet, c'est-à-dire un film qui a été tourné d'après un des scénarios jamais réalisés de Jacques Tati. On va présenter par exemple des curiosités comme Gai Dimanche. Gai Dimanche, c'est un court-métrage où Tati sort avec le clown Rome, qui a fait avant la Seconde Guerre mondiale. Ou par exemple, on a décidé de présenter Mon oncle, la version américaine, pas la version française.
Alors, pour revenir justement sur, pour développer un petit peu sur L'illusionniste de Sylvain Chaumet. Donc, Sylvain Chaumet, on sait que c'est celui qui a fait Les triplettes de Belleville. C'est à partir donc d'un scénario qui n'a jamais été réalisé par Jacques Tati, qui s'appelle L'illusionniste. Je crois savoir que, à l'époque, Jacques Tati avait situé le scénario à Prague. Enfin, j'ai lu ça quelque part, mais que finalement, Sylvain Chaumet a choisi de situer ça à Édimbourg.
J'ai lu ça aussi, mais je connais pas les détails. Alors, je sais pas, mais je sais que l'histoire ne se déroule pas à Prague, et j'ai lu la même chose que Jacques Tati voulait le situer à Prague.
Quelles sont un petit peu les autres sections dont on peut parler pour le festival de cet été, par exemple,
disons. Oui, il y a une grande section aussi importante dont je suis chargé, c'est le nouveau cinéma latino-américain. L'idée, c'est de présenter en fait l'apogée du cinéma latino-américain des dernières 10 années ou des 15 ans. Surtout, on va présenter les films argentins et mexicains, c'est-à-dire vraiment les grands classiques comme, je connais pas les titres français, Y tu mamá también, le premier film de Cuarón, Iñárritu, Amores Perros, Guillermo del Toro, Cronos. Jusqu'à les films de Carlos Reigadas, Fernando Henrique, et le cinéma argentin, on va présenter de tout, vraiment, du cinéma indépendant. Il y aura Lisandro Alonso qui vient au festival pour présenter aussi sa rétrospective complète de ses films, l'intégrale de ses films.
C'était David Tcheniek, et rappelons que bien d'autres films seront à voir encore lors de ce festival qui s'achève le 1er août. Pour plus d'informations, c'est sur internet au www.lfs.cz. On passe comme promis au cyclisme maintenant. Après une deuxième semaine difficile pour lui, Roman Kreuziger a finalement démontré qu'il fallait encore compter sur lui sur le Tour de France. 10e de la 4e étape pyrénéenne qui était tant attendue et dont l'arrivée était jugée au sommet du col du Tourmalet jeudi, le coureur tchèque figurait ainsi de nouveau parmi les 10 premiers au classement général avant le contre-la-montre décisif de samedi et l'arrivée à Paris dimanche. Guillaume Larguet.
On s'attendait d'abord à un duel entre Alberto Contador et Andy Schleck dans les lacets du Tourmalet et on y a eu droit. Les deux hommes, en tête du classement général, finissant dans un ordre inversé également aux deux premières places de l'étape royale pyrénéenne. La victoire d'étape est donc revenue au jeune luxembourgeois, mais le maillot jaune est bien resté sur les épaules de l'Espagnol, toujours leader pour 8 secondes comme au moment du départ quelques heures plus tôt. Mais derrière Contador et Schleck, sur lesquels toute l'attention du public était tournée, d'autres coureurs se sont illustrés dans l'ascension du col du Tourmalet et Roman Kreuziger a fait partie de ces coureurs, longtemps présent dans le groupe de tête, puis de poursuivant, le seul coureur tchèque présent sur le Tour cette année a finalement franchi la ligne d'arrivée en 10e position avec 2 minutes et 14 secondes de retard sur Andy Schleck. Une performance qui, ajoutée aux pertes de temps enregistrées par l'Américain Levi Leifheimer et le Kazakh Alexandra Vinokourov, a permis à Kreuziger de gagner 2 places au classement général. Avant le contre-la-montre de samedi décisif pour la victoire finale, il occupait la 9e place à 10 minutes et 12 secondes d'Alberto Contador, un classement qui était déjà le sien l'année dernière lors de l'arrivée du Tour sur les Champs-Élysées. Ce vendredi, lors de l'étape entre Sally du Béarn et Bordeaux, qui ne comportait pas de difficultés majeures, Roman Kreuziger avait donc pour premier objectif d'économiser ses forces, avec derrière la tête l'idée non seulement de défendre sa 9e place samedi, mais aussi peut-être d'en grignoter encore une, puisque le Canadien Ryder Heiseidal, 8e, ne possédait que 54 secondes d'avance sur lui.
Après le sport, la musique et la virtuosité, un phénomène tantôt adulé, tantôt décrié, qui est le thème majeur du Festival international des festivités de la musique ancienne, dont la 11e édition a commencé avec succès jeudi à Prague. Václav Richter.
Le programme du festival a été préparé entre autres par la flûtiste et directrice de l'orchestre Collegium Marianum, Jana Semeradova. Pour elle, la virtuosité est beaucoup plus qu'un jeu brillant.
La virtuosité aujourd'hui est un peu différente de ce qu'elle était. Nous aimerions montrer comment naissait la virtuosité, comment elle se développait à l'époque de la Renaissance, du baroque et du classicisme. Il ne s'agissait pas que d'un jeu rapide de beaucoup de notes, mais le mot virtuose désignait un maître, un musicien capable de créer, de composer, un musicien qui était aussi un excellent théoricien de la musique et qui avait surtout le don d'improvisation.
Au programme du festival figure donc la musique instrumentale et vocale du passé, interprétée par des solistes et des ensembles d'Italie, d'Espagne, de Russie, d'Hollande, de Belgique, de France et de République tchèque. Pour le premier concert jeudi, les organisateurs ont choisi deux œuvres de František Jiránek, compositeur tchèque presque oublié, et de son célèbre contemporain Antonio Vivaldi. Ce répertoire a permis à l'ensemble Collegium Marianum de démontrer que la musique tchèque du XVIIIe siècle cache encore deux véritables trésors, car les œuvres de František Jiránek ont été une belle surprise pour le public et une révélation pour les musicologues. La grande salle du Rodolfinum a frénétiquement applaudi sa symphonia en ré majeur et ses quatre concertos instrumentaux interprétés avec une virtuosité éblouissante par le tromboniste Sergio Pasolini, la violoniste Marina Katajnova et la flûtiste Jana Semeradova. Les autres concerts du festival auront lieu comme d'habitude dans quelques-uns des plus beaux endroits de Prague, parmi lesquels le couvent de Břevnov, le château de Troja, le réfectoire du couvent des Dominicains dans la vieille ville, le château de Hviezda, etc. Jana Semeradova constate qu'au fil des années, le festival s'est solidement implanté dans la vie musicale tchèque et ne manque pas de public.
Je pense que le public tchèque est bien préparé à la musique ancienne. Pratiquement tous nos concerts ont été complets. Je n'ose pas dire que ce sera la même chose à l'avenir, mais jusqu'à présent nos concerts ont toujours été complets et le public était composé à 90% de tchèques. C'est une proportion très élevée. Ce n'est donc pas un festival pour les touristes comme on pourrait le penser puisque nous l'organisons en été. Je pense que le public tchèque perçoit cette musique très attentivement. Il ne s'agit pas que de spécialistes.
Le dernier spectacle du festival sera réservé le 8 août prochain à l'ensemble de danse français, la Compagnie de l'Éventail.
C'est donc en musique que prennent fin ces faits et événements, mais le programme en français de Radio Prague se poursuit dans une poignée de secondes. Économie, commerce. Jean-Michel Condamin est le président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise en République tchèque. Il s'agit d'une association d'origine française qui rassemble dans plusieurs pays du monde des jeunes entrepreneurs français ou francophones. Au micro d'Anne-Claire Veluire, Jean-Michel Condamin a d'abord décrit ce qu'était ce Centre des jeunes dirigeants d'entreprise en République tchèque.
Le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise est un mouvement qui a démarré il y a très longtemps en France, en 1938, avec Jean Mersch et un groupe d'entrepreneurs de l'époque qui trouvaient que les valeurs du patron étaient mal perçues par la population française. Et donc depuis, il y a eu du chemin qui a été fait, puisque le Centre des jeunes dirigeants en France représente à peu près 3300 membres et qui partageons des valeurs qui nous rassemblent. Le CJD en République tchèque C'est un mouvement qui a commencé il y a 2 ans, qui a pris un peu de temps pour démarrer, mais qui depuis 1 an est, on va dire, relativement actif, avec une dizaine de membres qui se réunissent en fait tous les mois, de façon à partager sur des thèmes divers et variés. On pourra en parler un petit peu tout à l'heure si vous voulez, mais surtout pour partager et pour rompre cette solitude qui est le propre de le dirigeant d'entreprise, que ce soit son entreprise personnelle, donc en tant que propriétaire de l'entreprise, ou en tant qu'exécutif d'une société pour laquelle il y a des filiales ou un groupe derrière qui assure en fait la partie structure générale.
Vous m'avez parlé de valeurs du fondateur de cette association. À quel type de valeurs vous faites référence ?
Donc en fait, les valeurs importantes tournent autour d'un concept très simple à la base, qui est que on représente l'entreprise qui sont entreprises des hommes en fait. C'est l'homme est au centre de l'entreprise et c'est pas une ressource simplement qui est utilisée pour faire des bénéfices, mais qu'au contraire, on doit prendre en compte de façon très importante le rôle de la personne dans l'entreprise. Donc ce sont des valeurs plutôt humanistes. On est tous plus ou moins capitalistes, avec des idées qui nous sont propres. C'est une association qui est apolitique, donc on n'est pas de gauche, de droite, du centre, peu importe. On a nos propres idées, ce sont nos idées. Mais quand on est entre nous, on ne parle pas de politique. Et on fait en sorte justement de promouvoir des solutions ou des réflexions un peu avant-gardistes concernant le comportement dans l'entreprise, concernant l'entreprise et son comportement dans la société. Donc ce sont des valeurs sociétales, valeurs économiques et valeurs humaines.
L'association s'appelle le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour faire partie de cette association ?
Alors, il y a une limite d'âge dans les statuts pour prendre un mandat électif, qui est de 45 ans. Mais en fait, la jeunesse, c'est pas la jeunesse en termes de nombre d'années qu'on met au compteur, mais la jeunesse qu'on a dans la tête et ce que l'on fait. Donc, en fait, il n'y a pas d'âge en soi. Les gens partent et viennent au CJD en fonction de leurs aspirations, de leurs problèmes, de ce qu'ils ont envie de trouver. Et en fait, on a naturellement des gens qui ont des parcours de quelques années, 5-6 ans par exemple. Et puis, il y a d'un qui a des parcours qui, pendant 20 ans, sont dans le CJD. Mais ils ont eu, par exemple, 10-12 ans extrêmement actifs. Et le reste des années ont été plutôt en tant que support, ou en tant que ce qu'on appelle le personnel qualifié, qui apporte leur expérience aux gens plus récents, pas forcément plus jeunes au sens âge, mais plus récents dans le mouvement, pour apporter leur expérience, leur connaissance. Voilà.
Alors, on va revenir un petit peu en République tchèque. Vous m'avez dit que le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise ici en République tchèque a été fondé, enfin pas qu'ici, mais un peu aussi dans l'idée de soutenir les chefs d'entreprise qui ont à souffrir ou à affronter un peu la solitude d'un poste de responsabilité à l'étranger. Est-ce qu'il y a une différence entre diriger une équipe, une entreprise, entre être un jeune dirigeant en France et à l'étranger ?
Alors, je pense que les problématiques de base sont les mêmes. Le fait que l'on a besoin de prendre des décisions, que le monde entreprise est un monde qui est complexe, l'économie est un environnement qui est complexe. Donc on apprend à gérer cette complexité et en général, un entrepreneur n'est pas forcément quelqu'un qui a eu tous les outils qui lui permettaient d'affronter ces situations. La solitude en elle-même vient plutôt de la conséquence de ne pas avoir tous ces outils, d'avoir son entreprise ou être, on va dire, un dirigeant salarié d'une entreprise plus importante. Les problématiques sont les mêmes. On n'a pas tendance à parler de ses problèmes à sa famille ou à ses collaborateurs parce que c'est mal perçu ou c'est mal vécu. Et encore moins quand on est dirigeant exécutif dans un grand groupe, d'en référer à son propre patron pour dire « Écoute, j'ai des problèmes là ou là, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Donc le CJD, c'est exactement ça, c'est de pouvoir faire un peu cette courroie de transmission, de pouvoir cette soupape en fait, où on est entre nous, on parle de choses plus ou moins, on va dire, sensibles ou difficiles, mais on va pas être jugé, on va pas avoir de conséquences sur sa vie professionnelle ni personnelle, et on peut même être aidé au-delà de ça, puisque ça c'est le côté partage, le côté ne pas se sentir seul, mais on peut également monter des commissions miroirs ou des GAD qui nous permettent, dans un cadre structuré, de pouvoir avoir des idées, avoir un regard différent, un regard neuf, neutre et plutôt sympathique. dans le sens sympathique, c'est plus dans le sens bienveillant, sur son problème. Et donc, très souvent, on arrive à le résoudre.
Vous me dites que le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise se réunit une fois par mois en République tchèque. Alors, quel genre de thème vous abordez? Quel type de problème ces jeunes dirigeants sont confrontés?
Vous parlez tout à l'heure de des notions de différence entre diriger entreprise en France et diriger entreprise en République tchèque, par exemple. Les notions de différences culturelles sont des différences importantes à prendre en compte pour arriver à bien gérer le staff que l'on a dans l'entreprise, quel que soit son niveau, et encore plus quand il y a un staff qui est multiculturel également. C'est-à-dire qu'on passe qu'on est en République tchèque, qu'il n'y a que des Tchèques qui sont en entreprise. Donc ça a été un des sujets, par exemple, la difficulté de la gestion multiculturelle dans l'entreprise, ça a été un des sujets de cette année, par exemple. On peut aussi aborder certains sujets qui sont plutôt vrais dans les petites entreprises où le dirigeant a ou peut avoir son conjoint ou sa conjointe qui est également dans l'entreprise. Et comment on gère le fait d'être à la fois patron mais également papa ou maman. De quoi on parle à la maison, de quoi on parle au travail. Quelles sont les conséquences sur les enfants et sur l'autre conjoint. Donc c'est les impacts familiaux par exemple. Et ça c'est également un sujet que l'on aborde. Il n'y a aucun sujet qui est tabou en soi. On essaie de toujours apporter un regard neuf et sincère sur nos expériences et les problématiques qu'on a pu avoir dans notre vie professionnelle.
C'est la rediffusion de l'entretien accordé par Jean-Michel Condamin, le président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise en République tchèque, de l'entretien qu'il a accordé à Anne-Claire Veluire. Et c'est ainsi que se termine le programme en français de Radio Prague. Retrouvez-nous sur internet au www.radio.cz. Sinon, demain, même heure, même fréquence, je vous souhaite un excellent week-end.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.